Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mamadou Koumfa, pour vous présenter le monde aujourd'hui, édition matinale du mardi 7 janvier 2025. Voici le sommaire. Le Sénégal et le Tchad dénoncent les propos du président français. Emmanuel Macron a estimé lundi devant ses ambassadeurs que l'Afrique doit remercier la France pour ses interventions militaires sur le continent noir. Ici aux États-Unis, la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre a été certifiée lundi par le Congrès, 2 semaines avant son investiture. L'ancien président français Nicolas Sarkozy de nouveau face à la justice, il doit cette fois répondre d'accusations de financement illégal de sa campagne de 2007 par la Libye de Muammar Kadhafi. Une nouvelle force de l'Union africaine doit se déployer en Somalie pour lutter contre les islamistes Shebab.
La perspective d'une opération internationale dirigée par l'Union africaine, financée par les États occidentaux, suscite beaucoup d'appétit.
L'analyse du chercheur Roland Marshall à suivre dans la partie magazine. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Eric Manirakiza. Mais pour commencer, voici le journal. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a déploré lundi l'attitude méprisante du président Macron qui a estimé que les dirigeants africains avaient oublié de dire merci à la France pour son intervention dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. En 60 ans de présence, la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres, sans véritable impact durable pour le développement du peuple tchadien, a déclaré Abderrahmane Koulamallah dans un communiqué lu à la télévision d'État. Il a souligné le rôle déterminant de l'Afrique et du Tchad dans la libération de la France lors des deux guerres mondiales que la France n'a jamais véritablement reconnues, ainsi que les sacrifices consentis par les soldats africains. Emmanuel Macron a défendu lundi devant ses ambassadeurs la réorganisation du dispositif militaire français en Afrique. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser nos présences. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce et parfois il a fallu les pousser, avait assuré M. Macron. Toujours en rapport avec cette actualité, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a contesté lundi que le retrait annoncé des soldats français de son pays aurait donné lieu à des négociations entre Paris et Dakar. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain, a dit M. Sonko, dont le pays a annoncé ces dernières semaines la fin en 2025 de toute présence militaire française et étrangère sur le sol national. La France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel, a ajouté M. Sonko. La justice sénégalaise a condamné hier à 3 ans de prison ferme 3 membres de la sécurité de l'opposant Barthélémy Diaz pour coups et blessures volontaires et détention d'armes sans autorisation, selon un avocat des prévenus. Ces peines font suite à des violences survenues en novembre lors des élections législatives. Nani Talani.
Sur 79 prévenus pour coups et blessures volontaires, exercice illégal de la profession de policier, vol avec violence, détention illégale d'armes, le tribunal de Saint-Louis en a condamné 3 à 3 ans de prison ferme et en a relaxé plus de 60, d'après Eladj Diouf, leur avocat. D'autres ont écopé de peines allant du sursis à 6 mois de prison ferme. Un prévenu est décédé en prison le 2 décembre avant le procès. L'avocat a prévenu qu'il ferait appel de la décision. Après des violences en novembre lors des législatives remportées par le parti présidentiel PASTEF, 90 personnes avaient été arrêtées à Saint-Louis après des incidents entre des commerçants, des membres du parti au pouvoir et d'autres de la sécurité du chef d'une coalition d'opposition, Barthélémy Diaz, qui était alors maire de Dakar et tête de liste pour les législatives. Le parti au pouvoir avait déploré plusieurs victimes dans ses rangs après ces incidents qui avaient entraîné, d'après les autorités, des blessés par armes blanches et des vols à l'arraché. L'opposant Diaz, ancien allié de PASTEF, a été élu député à l'issue du scrutin du 17 novembre avant d'être déchu de son mandat le 6 décembre.
Le navire chargé de près de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium près d'Abidjan ne représente aucun danger pour les installations portuaires, encore moins pour les populations, a annoncé lundi le port de la capitale économique ivoirienne après avoir pris des précautions. Il affirmait samedi que le Zimrida, battant pavillon de la Barbade, était resté hors des eaux ivoiriennes, car soupçonné d'avarie. Il assure désormais que le navire ne souffre d'aucune avarie et remplit toutes les conditions de sécurité, conformément à la réglementation maritime internationale, dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion tenue lundi avec plusieurs ministères, le représentant de l'armateur et le propriétaire de la cargaison. Près de 8000 tonnes de nitrate d'ammonium sont destinées à la Côte d'Ivoire, a-t-il indiqué. Le nitrate d'ammonium est un produit qui peut s'avérer dangereux. Il avait provoqué l'explosion du port libanais de Beyrouth en août 2020 lors d'un incendie faisant plus de 220 morts et dévastant des quartiers entiers de la capitale libanaise.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre a été certifiée lundi par le Congrès. Cette certification ouvre la voie à l'investiture du républicain le 20 janvier prochain. Eric Manirakiza.
La cérémonie protocolaire a eu lieu 4 ans jour pour jour après l'assaut du Capitole. La vice-présidente Kamala Harris, agissant dans sa capacité de présidente du Sénat, a certifié la victoire de son adversaire Donald Trump devant les parlementaires américains réunis en Congrès. Le président élu s'est félicité d'un grand moment dans l'histoire lundi matin sur sa plateforme Truth Social, postant quelques minutes plus tard une photo de la foule de ses partisans rassemblés à Washington le 6 janvier 2021. La certification par le Congrès représente traditionnellement une formalité avant l'investiture officielle du nouveau président le 20 janvier. Ironie protocolaire, c'est Kamala Harris, la rivale vaincue de Donald Trump, qui a officié lundi en sa capacité de vice-présidente. Face à elle dans l'hémicycle, son successeur républicain J.D. Vance était assis au premier rang. Il est particulièrement admirable que la vice-présidente Harris préside la certification d'une élection présidentielle qu'elle a perdue, a commenté sur X Mike Pence, qui occupait ce même poste pendant le premier mandat Trump, saluant le retour de l'ordre et du civisme. Malgré la tempête hivernale qui a frappé Washington dans la nuit et recouvert la capitale d'un manteau neigeux, le président républicain de la Chambre des représentants Mike Johnson avait garanti dimanche que la certification aurait lieu, que nous soyons au milieu d'un blizzard ou non.
Toujours aux États-Unis, le juge new-yorkais Juan Merchan a rejeté lundi la demande de Donald Trump de retarder le prononcé de la sentence prévue le 10 janvier pour des paiements cachés à la star du X, Stormy Daniels. Dans une décision de 2 pages, M. Merchan a noté que les procureurs s'étaient opposés au report de la sentence et a déclaré qu'elle devait avoir lieu comme prévu, à moins que M. Trump ne fasse appel à la dernière minute auprès d'une juridiction supérieure et obtienne gain de cause. Les avocats de M. Trump cherchent à repousser le prononcé de sa peine prévue 10 jours avant son investiture, selon un recours rendu public lundi. Le tribunal doit annuler l'audience de prononcé de la peine et suspendre toutes les dates butoirs dans cette affaire jusqu'à ce que les appels fondés sur l'immunité du président Trump aient été complètement et définitivement épuisés et que l'affaire soit au final abandonnée, ont écrit les avocats Todd Blanche et Emil Bove dans un recours daté de dimanche. Après le rejet de leur recours par le juge Juan Merchan, les avocats de M. Trump envisagent de formuler un recours en appel d'urgence. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé lundi sa démission. Il quittera ses fonctions de chef du gouvernement dès que sa formation politique, le Parti libéral du Canada, lui aura trouvé un successeur. Jean-Roger Bion.
Justin Trudeau, 53 ans, fait face à un mécontentement croissant d'élus de son parti, préoccupé par les sondages désastreux et la perte récente de 2 sièges parlementaires traditionnellement acquis au parti. La crise interne s'est amplifiée quand le premier ministre canadien a tenté le mois dernier d'écarter Chrystia Freeland, ministre des Finances et parmi ses plus proches alliés, après que celle-ci a exprimé son opposition à ses projets de dépenses budgétaires. Chrystia Freeland a choisi de démissionner et dans une lettre a accusé Justin Trudeau de stratagèmes politiques au détriment de ce qui est le mieux pour le pays. Le départ de Justin Trudeau devrait alimenter les appels à la tenue au plus vite d'élections anticipées. Alors que des élections sont pour l'instant prévues au plus tard fin octobre 2025, les enquêtes d'opinion montrent que les libéraux seraient nettement battus par le Parti conservateur.
Le cinquième procès en 5 ans de l'ancien président français Nicolas Sarkozy s'est ouvert hier lundi à Paris. Il doit répondre cette fois aux côtés de 3 anciens ministres d'accusations de financement illégal de sa campagne de 2007 par la Libye de Muammar Kadhafi. Les précisions de John Lyndon.
L'air grave, Nicolas Sarkozy s'est avancé vers la barre dans son costume bleu marine en passant devant un mur de caméras sans faire de déclarations. Il est accusé, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, d'avoir passé fin 2005, notamment avec l'aide de ses très proches, son directeur de cabinet Claude Guéant et Brice Hortefeux, un pacte de corruption avec Muammar Kadhafi pour qu'il soutienne financièrement son accession à la présidence française. Jugé pour corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagnes et associations de malfaiteurs, Nicolas Sarkozy encourt jusqu'à 10 ans de prison et 375 000 euros d'amende, ainsi qu'une privation des droits civiques allant jusqu'à 5 ans. Parmi les 11 autres prévenus dans ce dossier figurent les ex-ministres Brice Hortefeux, Claude Guéant et Eric Wolff, ainsi que Thierry Gobert, un proche de Nicolas Sarkozy, et l'intermédiaire Alexandre Dury. L'entourage de Nicolas Sarkozy, 69 ans, assure qu'il est combatif et déterminé à prouver son innocence face à ce qu'il a toujours qualifié de fable.
Le président sortant des États-Unis, Joe Biden, a appelé à un transfert pacifique du pouvoir au Venezuela en faveur de l'opposant Edmundo González Urrutia, qu'il a rencontré lundi à Washington et prévenu qu'il surveillerait de près les manifestations prévues jeudi contre l'investiture du président sortant Nicolas Maduro. Dans un communiqué publié après cette rencontre qui s'est tenue à la Maison-Blanche, à l'écart de la presse, le président américain sortant qualifie le scrutin présidentiel vénézuélien du 28 juillet de profondément problématique et estime que le candidat de l'opposition a récolté la majorité des votes avec une marge insurmontable face à l'actuel chef de l'État, Nicolas Maduro. Caracas a qualifié de grotesque le soutien du président Biden à l'opposant Edmundo González Urrutia. L'actuel président du Venezuela, Nicolas Maduro, doit prêter serment vendredi prochain pour un nouveau mandat. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
Le groupe canadien Barrick Gold affirme qu'il suspendra ses opérations au Mali si le pays ne levait pas les restrictions sur les expéditions d'or d'ici la semaine prochaine. Barrick Gold a annoncé que Bamako avait ordonné la saisie des stocks d'or présents sur le site de Loulongoukoto. L'entreprise a lancé une procédure d'arbitrage international tout en souhaitant résoudre les différends à l'amiable et augmenter la part de l'État malien dans les bénéfices du site. Marsa Maroc, le premier opérateur portuaire du pays, veut investir une somme non divulguée dans le terminal pétrolier de Damerog à Djibouti, qui veut construire un port pétrolier et gazier sur sa côte du golfe d'Aden, selon un décret de Rabat publié lundi. L'investissement vise à renforcer la présence de Marsa Maroc dans les chaînes d'approvisionnement logistique de l'Afrique de l'Est. Marsa Maroc a également des succursales au Bénin pour exploiter des terminaux du port de Cotonou. Pour terminer, en Algérie, les appels des ONG se multiplient pour protéger le chardonneret, un passereau chanteur au plumage aux couleurs vives, contre le braconnage et le commerce illégal. Des lois ont classé cet oiseau parmi les espèces protégées, interdisant sa capture à l'état sauvage et sa vente. Cependant, la protection reste insuffisante et l'oiseau risque de disparaître à l'état sauvage en Algérie et en Afrique du Nord.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonjour Mohamedou.
Commençons par le rallye Dakar 2025. Batiuska et Sanders remportent l'éreintante 48 heures chrono. Sainz contraint à l'abandon.
Hommes et machines ont souffert pour venir à bout lundi de la deuxième étape du rallye Dakar en Arabie Saoudite. L'éreintante 48 heures chrono, une étape marathon de 967 km étalée sur 2 jours. L'épreuve a été remportée par l'Australien Daniel Sanders chez les motos et par le jeune Lituanien Rokas Baciuska dans la catégorie auto. Quatrième de l'étape à près de 7 minutes, le Sud-Africain Henk Lategan prend la tête du classement général provisoire. L'Espagnol Carlos Sainz, quadruple vainqueur du Dakar et tenant du titre, victime d'un tonneau dimanche ayant gravement endommagé sa Ford Raptor, a pu rallier l'arrivée avec plus d'une heure et demie de retard sur les leaders. Mais le pilote espagnol n'ira pas plus loin, l'arceau de sécurité de sa voiture ayant été trop déformé dans l'accident. La fin de l'aventure pour le quadruple vainqueur du Dakar et tenant du titre Carlos Sainz et son copilote Lucas Cruz. À bientôt, Roi Carlos a tweeté la direction du rallye sur son compte X. En moto, l'Australien Daniel Sanders continue de dominer le rallye en s'imposant pour la troisième fois d'affilée au guidon de sa KTM. Pour cette étape de longue haleine, les concurrents devaient bivouaquer dans le désert et ne bénéficiaient pas de l'assistance de leurs équipes à la halte nocturne.
Super Coupe d'Italie, l'AC Milan stoppe l'Inter.
L'AS Milan, mené 2-0, a renversé son grand rival de l'Inter Milan qui restait sur 3 victoires consécutives dans la Supercoupe d'Italie pour s'imposer 3-2 en finale de l'édition 2024 lundi à Riyad. L'Inter, vainqueur de l'épreuve en 2021, 2022 et 2023, semblait se diriger vers un succès facile grâce à son capitaine argentin Lautaro Martinez qui n'avait marqué qu'un seul but en 2 mois. La victoire de l'AS Milan, sacrée pour la 8e fois de son histoire en Supercoupe d'Italie, à une longueur du record de la Juventus Turin, 9 victoires, pour la première fois depuis 2016, et à égalité avec l'Inter au palmarès de ce tournoi créé en 1988.
Le Real de Madrid écrase les amateurs de Minera en 16e de finale de la Coupe du Roi.
Le Real Madrid s'est facilement qualifié lundi soir pour les 8e de finale de la Coupe du Roi en disposant 5-0 du modeste Deportivo Minera 4e division. Carlo Ancelotti avait laissé plusieurs de ses titulaires habituels sur le banc pour les préserver avant la Supercoupe d'Espagne programmée cette semaine en Arabie Saoudite. Samedi, Barcelone et l'Atlético Madrid avaient également franchi l'obstacle des 16e de finale, tout comme le tenant du titre, l'Atlético Bilbao, qui a dû néanmoins passer par les tirs au but pour éliminer la Grenesse, 3e division. Les 8e de finale sont programmés entre les 14 et 16 janvier. Le tirage au sort aura lieu mercredi.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Koumpa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Togo, la santé, l'éducation, l'inclusion sociale et financière sont les secteurs prioritaires dans le budget 2025 du gouvernement, voté à 2 396 000 000 de francs CFA. L'opposition parlementaire qui a voté contre cette loi des finances estime ne pas être convaincue par les arguments des autorités. De Lomé, notre correspondant Kossi Oussou.
Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Essowe Barkola, la loi de finances 2025, en augmentation de 9,9% par rapport au budget de 2024, traduit la volonté du gouvernement de bâtir une économie résiliente, équitable et inclusive tout en améliorant la qualité de vie des citoyens.
Les ressources importantes ont été allouées à différents secteurs, notamment la santé, pour la modernisation des infrastructures hospitalières, l'éducation en vue d'améliorer les infrastructures et l'accès à une éducation de qualité, l'inclusion sociale et financière afin de favoriser l'accès des populations vulnérables aux services financiers. Il apparaît clairement que le budget exercice 2025 est aligné sur les priorités du gouvernement, répondant ainsi aux aspirations profondes des populations.
Kafuya Jamagbo Johnson, de la dynamique pour la majorité du peuple, député de l'opposition à l'Assemblée nationale, n'est pas convaincu par les arguments avancé par le gouvernement.
Il y a presque la moitié, 49% du budget qui sont consacrés au secteur social. Nous n'avons pas pu avoir une idée de ce à quoi ça va servir concrètement et de l'impact que ça va avoir sur les populations. Nous sommes préoccupés par le fait que les fonds consacrés aux investissements sur les ressources internes du Togo sont très faibles. Franchement, c'est pas comme ça que nous allons développer le pays.
Aimé Gougué du parti ADI dénonce la forte pression fiscale sur les petites et moyennes entreprises et le secteur informel pour permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs budgétaires.
On sait que les contribuables togolais se plaignent à juste titre du poids de la fiscalité. L'OTA a réussi la prouesse de dépasser le taux optimal d'imposition sur le secteur informel. Ça veut dire que le secteur informel ou les petites et moyennes entreprises, l'OTA arrive à avoir une performance très importante sur ces secteurs, alors que d'autres secteurs ne sont pas bien imposés.
Au ministère de l'Économie et des Finances, on souligne que les mesures fiscales proposées visent à favoriser l'essor des secteurs économiques stratégiques. Argument partagé par Achole Akleso.
Ce budget traduit la sincérité et la fidélité du gouvernement, entre autres l'engagement du gouvernement en faveur des actions de renforcement du pouvoir d'achat de nos concitoyens et concitoyennes en vue d'une réponse adéquate et juste aux enjeux et défis actuels.
Pour le parti au pouvoir, l'analyse sommaire des secteurs prioritaires comme la santé, l'éducation, la protection sociale et l'agriculture renforce la conviction des militants que le gouvernement est sur la bonne voie pour répondre aux préoccupations des populations togolaises. Kossi Wusu, Lomé, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En novembre dernier, la Somalie a conclu des accords avec ses partenaires dans le cadre de l'OSOM, la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine. Le représentant somalien auprès de l'ONU a indiqué que 11 000 hommes seraient mobilisés avec un financement assuré à 75% par les Nations Unies. Cette nouvelle force de l'Union africaine en Somalie viendra remplacer l'ACMIS, la mission africaine de transition en Somalie. Pour une analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Paris, Roland Marchal, chargé de recherche au CNRS.
On peut évidemment arguer du fait que des soldats risquent leur vie pour le devenir de la Somalie, des soldats qui ne sont pas somaliens. Notamment les Burundais ont payé un prix extrêmement élevé dans les batailles contre Shabab. Des soldats d'armée africaine aident à une pacification de la Somalie. De l'autre côté, il est évident que la perspective d'une opération internationale dirigée par l'Union africaine, financée par les États occidentaux, suscite beaucoup d'appétit. De nombreuses allégations ont depuis des années fleuri sur le coût important de ces missions, même si ce coût est relativement inférieur à celui des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Et deuxièmement, sur peut-être pas les détournements, mais disons la façon dont cet argent est réellement octroyé aux contingents. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des contingents, des soldats de contingents internationaux qui devraient être payés au salaire de 1 050 euros pour un soldat de deuxième classe. Et on sait que ces soldats touchent quelquefois les deux tiers, quelquefois même moins, du salaire que paye la communauté internationale. Où va cet argent? Alors il y a des explications qui peuvent être légitimes. Cet argent va au ministère de la Défense des pays concernés, donc peut représenter quand même une ressource considérable pour les budgets de la défense dans les pays Djibouti ou Burundi ou Ouganda. Mais on soupçonne aussi, il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont fait l'objet de traitements par vos collègues journalistes, qu'une partie de cet argent est détournée par des officiers supérieurs à différents niveaux des armées nationales, c'est-à-dire qu'une fois que l'argent a atteint les pays contributeurs de troupes ou également au niveau de l'Union africaine dans les mécanismes de gestion.
Il y a eu ATMIS, maintenant il y a cette nouvelle mission. En quoi la nouvelle mission pourrait apporter à Mogadiscio pour gagner du terrain et vaincre les Shabab?
C'est une excellente question que vous posez. Je crois que la communauté internationale a été très hésitante jusqu'au dernier jour de l'année. La valeur ajoutée de cette nouvelle force par rapport à la précédente n'est pas très claire. Ce qui est désiré par la communauté internationale, c'est sans doute une mobilisation beaucoup plus effective de l'appareil sécuritaire somalien, et ce qui passe évidemment par une simplification, disons, une pacification des relations entre Mogadiscio et les États fédérés pour relancer une offensive contre Shabab qui, on se souvient, a connu de véritables succès à partir de l'été 2022 mais c'est considérablement émietté durant l'année 2023 et resté une fiction rhétorique en 2024.
Roland Marchal, chargé de recherche au CNRS.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump veut réduire les dépenses publiques. Un comité consultatif connu sous le nom de DOGE dirigera cette initiative. Ce n'est cependant pas une initiative nouvelle. Comme le rapporte Dora Mekouar de la VOA, plusieurs dirigeants américains ont tenté par le passé de réduire la taille et la structure du gouvernement. Le récit est de Lionel Gaïma.
Le milliardaire Elon Musk veut réduire de 2 milliards de dollars les dépenses fédérales. Il sera le coordinateur du département de l'efficacité gouvernementale, un comité consultatif proposé par Donald Trump. Ce n'est pas la première fois qu'une administration américaine s'engage à réduire les dépenses publiques.
Les présidents ont parlé d'une manière ou d'une autre de réduire la taille ou le rôle du gouvernement depuis la fondation de la République.
Tout a commencé avec le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, au début des années 1800. Jefferson a supprimé certains emplois militaires et civils, réduisant temporairement les dépenses. Dans les années 1930, Franklin Delano Roosevelt a augmenté le nombre des fonctionnaires pour faire face à la Grande Dépression. Son New Deal a employé des millions de personnes, apportant une aide aux pauvres tout en stimulant l'économie. Ces emplois ont disparu une fois la crise terminée.
Le président Reagan a demandé à la Commission Grasse d'examiner le gouvernement dans le but de le faire fonctionner davantage comme une entreprise.
Mais le site internet de la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan indique que la plupart des recommandations, en particulier celles nécessitant une législation du Congrès, n'ont jamais été mises en œuvre. Cependant, certains historiens affirment que Reagan a réussi à réorienter le débat national en faveur d'une implication moins importante du gouvernement dans les affaires publiques.
C'était un changement fondamental par rapport au siècle précédent, en fait, en termes d'expansion du rôle du gouvernement dans la société.
Dans les années 1990, Bill Clinton a œuvré à la suppression d'environ 300 000 emplois fédéraux, principalement par le biais des départs à la retraite et d'externalisation des services.
C'est certainement l'une des administrations les plus importantes en termes de réduction du rôle du gouvernement de l'ère moderne.
Au cours de son premier mandat, Donald Trump a ordonné un gel des embauches au niveau fédéral et autres coupes budgétaires. Il souhaite désormais que son ministère de l'efficacité gouvernementale termine le travail. Certains s'interrogent sur la sagesse d'adopter une approche commerciale pour diriger le gouvernement.
Quand vous êtes au pouvoir, vous êtes responsable devant le peuple. Et votre objectif n'est pas de gagner de l'argent. Votre objectif est de fournir des services et de défendre la nation. Il y a beaucoup de fraude et de gaspillage dans le secteur privé. Donc je ne suis pas sûr que les hommes d'affaires soient nécessairement les mieux placés pour le savoir, pour même déceler la fraude et le gaspillage.
Trump et Musk utilisent un outil pour faire passer leur message. Un outil qui n'était pas disponible lors des tentatives passées des réductions du gouvernement.
Les réseaux sociaux permettent d'apporter une réponse plus rapide et plus complète. Les membres du Congrès ont tendance à répondre davantage aux messages sur les réseaux sociaux qu'aux lettres traditionnelles qu'ils recevaient auparavant.
Dans de nombreux cas, le Congrès doit donner son accord avant que des réductions puissent être effectuées.
Salut les amis, ici Roger Montout de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et c'est ici que prend fin cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouamadou Mfaï Siba, le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.